Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le temps passe vite, trop vite, et c'est la dernière année où je ferai cours. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi un thème de cours qui est plutôt transversal et que j'ai intitulé « Le hasard et la spécificité ». Vous penserez sans doute qu'il y a là un petit clin d'œil à l'un de mes précédents collègues au Collège de France, Jacques Monod, pour son livre « Le hasard et la nécessité », lequel avait lui-même fait un petit clin d'œil à Démocrite. Mais il y a une différence, et ce n'est pas un jeu de mots. La question du hasard et de la spécificité est absolument essentielle dans tous les processus des sciences de la vie, et c'est bien cela qui est fondamental dans le cours que je vais donner, l'immunologie étant forcément l'un des domaines les plus complexes dans lesquels cette spécificité pose problème par rapport à un hasard de rencontre qui est considérable. Donc ce thème, qui est forcément large, comme je l'ai dit, m'impose un certain style de cours qui sera peut-être un peu plus conceptuel que les années précédentes, qui va m'amener à couvrir un grand nombre de domaines et donc à choisir quelques exemples comme je vais vous le montrer. Alors le hasard, je ne vais pas vous faire de grands discours sur la question du hasard en termes de physique, de philosophie. Mais enfin, le hasard pour les organismes vivants, c'est bien sûr les hasards qui se situent dans le temps de la vie d'un organisme. Ce sont des hasards qui sont liés à l'environnement, et pour ce qui touche au système immunitaire, bien sûr, c'est le hasard de la rencontre des agents infectieux que nous rencontrons par dizaines, centaines ou milliers chaque jour, nous ne le savons pas réellement. Ce sont aussi d'autres hasards qui sont liés au fonctionnement de l'organisme, et on s'aperçoit de plus en plus, enfin de mieux en mieux établi, que un certain nombre de mutations qui peuvent provoquer des cancers, des dysfonctionnements, des déséquilibres internes ont un effet sur le système immunitaire, peuvent parfois induire le système immunitaire, peuvent parfois l'activer, ce qui amène bien sûr à ce que le système immunitaire devienne un des éléments importants de lutte contre le cancer, on s'en aperçoit de plus en plus. La question maintenant est du fonctionnement de l'organisme amène une question sur la complexité de l'organisme, et ce sera l'un des thèmes récurrents de ce cours, de faire appel à cette question de complexité, j'y reviens même dans un instant, et aux notions qui sont adossées à la question de la complexité, et notamment une notion que j'évoquerai plusieurs fois qui est celle de robustesse. Un système complexe est robuste lorsqu'il est capable de fonctionner en dépit d'erreurs qui sont faites à l'intérieur du système. Et donc un avion est robuste dans la mesure où, lorsqu'il y a une panne dans un des circuits, il y a d'autres circuits qui compensent et l'avion continue sa route. Donc la robustesse est une notion totalement essentielle. Le hasard dans le temps long, c'est autre chose. Ce sont les hasards liés au climat, au changement climatique, aux ressources nutritives, et bien sûr le hasard des variations génétiques, ce qui nous amène tout droit à la question de l'évolution qui, dans le système immunitaire, amène des perspectives intéressantes, comme nous le verrons également. La question de la spécificité, elle, n'est pas si simple. Si, par hygiène intellectuelle, vous allez consulter le dictionnaire pour voir la définition de la spécificité, vous allez trouver quelque chose de genre là. C'est ce qui est caractéristique d'une entité. J'ai rajouté à n'importe quel niveau d'organisation d'un système et, par exemple, ADN, ARN, protéines, cellules pour ce qui est des systèmes vivants. Donc, c'est ce qui est caractéristique d'une entité ou encore de l'interaction entre deux entités. Et bien entendu, cette interaction entre deux entités peut déclencher une action qui est elle-même spécifique. En d'autres termes, si vous prenez un enzyme et son substrat, ben vous avez une réaction, et ces substrats, vous avez une réaction qui est spécifique et qui produit quelque chose de spécifique. Tout ça est banal, ça le devient un petit peu moins lorsqu'on réfléchit à ce qu'est ou ce que peut être la spécificité dans un système complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe ? C'est un système qui est constitué par de nombreuses entités en interaction. Et donc, la question de la spécificité du système complexe, comment est-elle répercutée sur ces éléments et sur les interactions entre ces éléments ? Et comme je vais vous le montrer, ce sera également l'un des thèmes de ce cours, un des gros problèmes est de réduire le système complexe à quelque chose qui soit analysable. Le réduire à quelque chose d'analysable, c'est le réduire, dans le langage ordinaire, à des modules. C'est donc la question de la modularité d'un système complexe. Et ensuite, la question est de savoir si la spécificité se retrouve dans les modules et comment elle impacte le système. Alors, j'annonce d'emblée que, à mon sens, cette question de la modularité est absolument fondamentale, et d'autant plus fondamentale que l'on s'aperçoit qu'elle est différente, ou probablement différente, devrais-je dire, dans les objets conçus et fabriqués par l'homme et dans les systèmes biologiques. Pourquoi ? Parce que, en un mot, juste pour encadrer ce thème, dans les systèmes mécaniques qui ont été conçus et construits par l'homme, eh bien, une roue, c'est une roue, un frein, c'est un frein, et une portière, c'est une portière. Et donc, bien sûr, il y a des interactions entre la portière et la roue, mais elles sont distantes. Il n'y a pas, comme il y a dans les systèmes biologiques, un tel mélange fonctionnel entre les éléments qui constituent les prétendus modules qu'il devient presque impossible de définir le module. Plus exactement, il est possible de définir le module par une opération intellectuelle sans que l'on puisse réellement assigner au module une réalité physique. Et cela se retrouve dans tous les systèmes complexes biologiques, et tous les systèmes biologiques sont plus ou moins complexes, mais dans le système immunitaire qui est très, très complexe, cela se voit pertinemment. Je vous en donnerai des exemples. Et donc, si l'on veut bien analyser ou essayer de comprendre la spécificité dans les systèmes biologiques, on est forcé de s'éloigner des conceptions strictement mécanistes auxquelles nous sommes généralement habitués. Donc, vous voyez que la question du hasard et de la spécificité, ça n'est pas si simple. Voilà donc, pour bien illustrer ce point, un système complexe, plus exactement, si j'ose dire, un vieux système complexe, puisque c'est une expérience qui date de 8 ans et qui décrit ce qu'on appelle le protéome de la levure. Et vous avez là environ les interactions entre un millier d'éléments, alors qu'il y en a 6 ou 10 000, ou peut-être plus. Et vous voyez les interactions telles qu'on peut les déchiffrer avec un certain nombre de techniques que je ne décris pas maintenant. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que c'est vraiment c'est compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça vous montre que c'est quand même difficile de définir des sous-ensembles de façon évidente. Alors vous avez ce petit là-haut, là vous avez quelque chose qui pourrait faire un petit sous-ensemble qui fait sens, du moins d'après cette représentation. Mais enfin, vous voyez qu'en gros, si vous tirez sur un fil ici, vous avez des effets sur l'autre bout du système. Et donc, encore une fois, c'est différent d'une voiture ou d'un avion. La roue et la portière, c'est quand même pas la même chose. Donc, il y a quelque chose de singulier dans ces systèmes complexes sur lequel je serai amené à revenir. Dans un système complexe, vous êtes forcé de définir des modules et des niveaux d'organisation. Alors, des niveaux d'organisation, c'est quoi ? Chez l'homme, un niveau d'organisation, c'est la cellule, un autre, c'est l'organe, et un autre, c'est le corps entier. Le système immunitaire constitue un niveau d'organisation, etc., etc. Donc, ce sont des sous-ensembles que l'on estime pertinents pour une raison ou pour une autre. Je mentionne que la définition d'un niveau d'organisation est plus ou moins arbitraire, et je le montrerai. Elle est arbitraire parce qu'il y a tellement d'interactions dans le système que l'isoler, encore une fois, est un acte intellectuel beaucoup plus que la reconnaissance d'un dispositif réel ou pratique. En plus, bien entendu, ces niveaux ne sont pas indépendants. Ils interagissent tous les uns avec les autres. Et donc, la question du hasard et de la spécificité se pose à chacun des niveaux à propos des interactions entre les différents niveaux et, bien sûr, au niveau de la totalité du système, de l'ensemble considéré, en l'espèce, pour ce qui nous concerne ici, le système immunitaire. J'en profite pour dire que ce système immunitaire, et j'annonce encore quelques thèmes qui seront traités au cours de mes exposés, ce système immunitaire, sa définition est plus que floue. Là encore, il interagit tellement avec d'autres éléments de l'organisme qu'il est à peu près impossible d'en définir les frontières. Notamment, par exemple, comment pouvez-vous isoler le système immunitaire du système métabolique ? Il a besoin d'énergie, donc il est forcément sensible à la manière dont les métabolites et les sources d'énergie circulent et diffusent dans l'organisme. Et donc, l'isoler du métabolisme est une vue de l'esprit. Et donc, la question de la définition du système immunitaire est elle-même quelque chose d'arbitraire. Néanmoins, il faut bien avancer, et avancer, c'est donc définir des ensembles que, dans un certain contexte, et un contexte de recherche, un contexte de recherche de connaissances, de développement, on estime pertinent. Ce complexe, bien entendu, est forcément un peu historique, il dépend de l'état des choses, de certains courants d'idées, et on le verra d'ailleurs à la fin de cet exposé. Et je vous en donne ici quelques exemples. Vous avez une question de hasard et de spécificité entre molécules. Donc, évidemment, à l'intérieur du système immunitaire, comme dans d'autres systèmes biologiques, vous avez toutes sortes d'interactions entre deux molécules. Et comme exemple, je prendrai l'exemple de la célèbre fameuse relation entre l'antigène et l'anticorps. Vous avez le problème des molécules en interaction au sein d'une cellule. Et je prendrai assez rapidement comme exemple la question des cascades de signalisation. Lorsque une cellule reçoit un signal à la surface, vous avez une cascade qui fait que le signal reçu à la surface est transmis jusqu'à des gènes dans le noyau. Comment ça se fait? Comment ça fonctionne? Ça implique des molécules, il faut qu'elles se rencontrent. Il faut donc que ce soit quelque part spécifique, parce que sinon... le signal activerait n'importe quoi, et donc il y a de la spécificité là-dedans. C'est déjà un niveau un peu plus compliqué puisque ça fait intervenir plusieurs molécules. Vous avez un problème de reconnaissance entre les cellules ou avec les interactions entre deux cellules. Un exemple, c'est celui de la célèbre cellule dendritique qui est maintenant connue et reconnue comme étant la cellule qui est responsable de l'activation des réponses immunitaires adaptatives, parce que c'est la seule cellule capable d'activer une cellule T naïve. Comment cette interaction se fait-elle? Comment est-elle spécifique? Dans le corps humain, vous avez des milliards de cellules T qui circulent. Lorsque un antigène est présenté, la cellule dendritique présente cet antigène et sélectionne en quelque sorte, n'active que les quelques cellules T sur des milliards qui sont spécifiques de l'antigène. Comment est-ce que ça peut se produire? Là encore, il y a une question de hasard et derrière, bien sûr, une affaire de spécificité. Vous avez un autre niveau d'organisation qui est celui des cellules au sein d'un organe. Alors, les organes, on sait ce que c'est, vous avez le foie, le poumon, le machin, etc. Évidemment, ce sont des structures extrêmement compliquées, faites de milliards de cellules elles-mêmes. Et dans le système immunitaire, un organe particulièrement important, il y en a plusieurs, mais l'organe que j'évoquerai comme exemple, c'est le ganglion. Un autre niveau d'organisation, vous pouvez encore évidemment essayer de penser le système immunitaire en tant que tel, en tant que système autonome, et ça amène à traiter de la question qui est essentielle, de la distinction entre le soi et le non-soi, comment le système immunitaire fait le départ entre ce qui figure dans l'organisme et ce qui ne doit pas donner lieu à des activations qui seraient désastreuses, en tout cas, et puis les antigènes étrangers tels que, évidemment, les agents infectieux, virus, bactéries, parasites, champignons, avec lesquels nous sommes en contact tout le temps. J'en profite pour vous dire que, même à ce niveau, juste pour fixer le débat, nous sommes porteurs de plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans le corps, donc nous en avons des milliards, enfin des centaines de milliards des milliers de milliards dans l'intestin. Et ces bactéries sont quelque part en symbiose avec le corps et donc ne sont pas forcément totalement étrangères. Donc vous voyez que même au niveau de la distinction entre le soi, le non-soi, l'étranger, le non-étranger, il y a quand même des ambiguïtés. J'ai mentionné que le système immunitaire appartient à l'organisme et qu'il va falloir aussi réfléchir à la manière dont on peut faire le lien avec les autres systèmes. Et puis finalement, et surtout pour mémoire, un organisme, ça vit dans un environnement, donc ça pose la question de l'environnement naturel et des niches écologiques, ça pose la question des populations et des recherches en épidémiologie que je ne traiterai pas dans ce cours. Voilà, donc vous voyez que, évidemment, on va du théoriquement le plus simple au plus compliqué, mais il y a énormément de niveaux d'organisation possibles qui me fourniront autant d'exemples au cours de ce cours que je traiterai un à un dans les cours qui suivront. Je voudrais insister maintenant sur cette idée qui est ici formulée de façon un peu laxiste, qui est que dans la pratique, c'est-à-dire dans la pratique, dans ce qu'on connaît des choses vivantes, ni le hasard, ni la spécificité ne sont absolus. Et je pense que c'est un grand... c'est simple, évidemment, à énoncer sous cette forme, mais c'est très important de se mettre dans cet état d'esprit que ni le hasard, ni la spécificité ne sont absolus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les processus du vivant sont spécifiques jusqu'à un certain point. Ils ne sont pas totalement spécifiques. La notion de spécificité est à voir, en fait, dans un contexte évolutif. La spécificité d'un processus est convenable lorsqu'elle permet la survie de l'organisme dans un environnement donné. J'en donne tout de suite un exemple pour que vous compreniez. La synthèse, un des processus les plus basiques du vivant, c'est la synthèse des protéines. Donc la synthèse des protéines, ça se fait à chaque seconde dans toutes les cellules de l'organisme. C'est un processus qui est spécifique, bien entendu, sinon les protéines seraient n'importe quoi. Mais il y a quand même un taux d'erreur qui est colossal. Le taux d'erreur, c'est entre 1 sur 1000 et 1 sur 10 000 par acide aminé incorporé. C'est un taux d'erreur absolument considérable. Et la question qui est la suivante, c'est que pourquoi est-ce que ce n'est pas mieux que ça? Et la raison, c'est que ça suffit, puisque ça marche. Et si c'était plus précis, ça coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher en énergie, en processus, etc. etc. C'est donc le résultat d'un compromis. Donc la spécificité est le résultat de compromis. Et donc la spécificité ne doit pas être considérée comme quelque chose d'absolu, de merveilleux, etc. Pas du tout. C'est quelque chose qui est interprété de façon relative. Même chose, bien entendu, dans la réplication. La réplication de l'ADN est réputée pour avoir un taux d'erreur d'environ 10⁻⁹. C'est-à-dire sur chaque nucléotide incorporé, une erreur sur un milliard. C'est obtenu grâce à la combinaison de trois mécanismes qui chacun font à peu près un taux d'erreur de 10⁻³, tolèrent un taux d'erreur de 10⁻³. Donc 10⁻³ par 10⁻³ par 10⁻³, ça fait 10⁻⁹. À partir de cela, vous avez un taux d'erreur qui est apparemment tolérable. Nous verrons plus tard dans le cours que ce taux d'erreur chez l'homme atteint un niveau qui est quand même assez intéressant parce qu'il est en fait un peu inférieur à cela chez l'homme, mais enfin il est tel que dans les cellules somatiques, en gros, c'est pas tout à fait exact, mais en gros pour fixer les idées, chaque fois qu'une cellule se divise, il y a une erreur. Ce qui veut dire que comme nous sommes faits de milliards de cellules, il y a des milliards d'erreurs. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, nous sommes porteurs de je ne sais combien de cellules mutantes, et c'est d'ailleurs en raison de cela qu'émergent un certain nombre de maladies, y compris de nombreux cancers. Donc, pourquoi est-ce que le taux de réplication n'est pas meilleur que ça? On ne sait trop rien, mais enfin, il résulte très probablement d'un compromis. Et certains virus s'en accommodent, puisque certains virus, comme le VIH, le virus du sida, ont un taux d'erreur qui, lui, est de 10-3, 10-4, donc beaucoup, beaucoup plus élevé, et ils arrivent à fonctionner de cette façon-là, et même en tirer avantage, et nous en dirons un mot. Alors, la spécificité a donc un coût. En plus, elle est souvent acquise grâce à la combinaison de spécificités assez médiocres. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça fait sens. Quand vous avez une chaîne d'événements et que ces événements ont chacun une certaine spécificité, au bout de la chaîne, vous multipliez les spécificités, si j'ose dire, et donc vous arrivez finalement à quelque chose d'élevé en termes de spécificité. En plus, au niveau moléculaire, beaucoup de processus biologiques engagent des interactions faibles et pas du tout des interactions réellement super fortes. Et donc, la biologie utilise beaucoup d'interactions faibles qui ont en plus le mérite d'être réversibles. Et donc, c'est un processus qui fait sens. Et puis, finalement, le hasard non plus n'est pas absolu. C'est-à-dire que les choses, bien sûr, se produisent au hasard. Lorsqu'un virus pénètre dans un organisme, c'est, non prévisible à l'avance. Néanmoins, vous verrez, ce sera un des thèmes également de ce cours, que le hasard est canalisé, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour augmenter les probabilités de rencontres et qui permettent au système immunitaire de combattre le virus à différents niveaux, eh bien, pour augmenter ces probabilités de rencontres, il y a des dispositifs, et la plupart de ces dispositifs sont fondés sur la topologie. C'est-à-dire que la restriction de l'espace augmente les probabilités et permet donc de favoriser des probabilités de rencontres qui, sinon, seraient évanescentes. Donc, il y a là un autre principe qui est très important, qui est le principe de la topologie, qui est quelque chose qui est, à mon sens, a été trop peu analysé jusqu'à présent, et pour une excellente raison, c'est que c'est expérimentalement extrêmement difficile. Donc, dans la pratique, ni le hasard ni la spécificité ne sont absolus. Alors, j'ai voulu vous présenter ici, j'ai voulu sortir complètement du champ pour, secouer un peu les cerveaux, comme on dit en anglais, et pour vous habituer à penser un tout petit peu autrement que dans le mode ordinaire dans lequel on est habitué à penser, en immunologie en tout cas, ou dans lequel j'étais moi-même habitué à penser. Et donc j'aimerais vous parler un petit peu de vision, parce qu'au fond, il y a quelque chose d'un petit peu analogue entre la vision et le système immunitaire. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire, il doit repérer, au fond, l'une de ses fonctions, c'est de repérer des anomalies. Par exemple, l'intrusion d'un agent infectieux dans l'organisme. Quand il y a un problème d'aiguille dans une botte de foin, parce que vous vous coupez, vous avez une bactérie qui pénètre dans l'organisme, vous voyez bien qu'il faut quand même pouvoir la repérer, c'est pas évident. De la même manière, la question dont on repère par la vision des objets singuliers dans un tableau complexe, c'est de la même manière repérer une aiguille dans une botte de foin. Donc il m'a paru intéressant de considérer comment on fait dans le cas de la vision. Et bien entendu, j'évoque ça de façon légère parce que je ne connais pas vraiment bien le domaine et je vous rapporte simplement quelques éléments bien connus. Alors, le premier, c'est que, comme pour le système immunitaire d'ailleurs, la vision étant essentielle, le pouvoir sélectif est certainement extrêmement fort. C'est-à-dire qu'un animal aveugle ou myope, il a quand même peu de chances de s'en tirer, quoi. Ce qui d'ailleurs m'amène à penser que dans l'évolution de l'homme, la sociabilité est peut-être quelque part associée à la myopie, mais c'est une spéculation qui sera difficile à prouver. Mais je ne vois pas très bien comment l'homme des cavernes myope et sans lunettes pouvait réellement s'en tirer tout seul. En tout cas, l'œil est un organe qui est très complexe, mais qui a des formes, évidemment, comme on le sait bien, très très différentes selon les animaux. Alors, l'œil des oiseaux, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est assez gros, c'est fixe. C'est une densité de photorécepteurs plutôt plus forte que chez l'homme. Certains sont tétrachromatiques alors que l'homme est trichromatique. L'œil des rapaces est assez extraordinaire parce qu'il il a des muscles qui permettent de zoomer. Donc, à un certain moment, l'œil se contracte et crée une nouvelle focale qui permet de zoomer. Et c'est ça qui permet d'atteindre cette performance assez remarquable, d'être capable, pour un grand rapace, de distinguer un animal de 15 cm à 1,2 km de hauteur. Voilà. Donc, ceci dit, la drosophile, c'est un œil à facettes. Enfin, il y a beaucoup d'yeux différents. Les oiseaux migrateurs ont des capacités extraordinaires également. C'est celle de percevoir ce que nous ne sommes pas capables de faire, des mouvements très lents, en plus des mouvements rapides, ce qui leur permet d'appréhender la rotation de la Terre, le mouvement des astres, et donc de se positionner, de même qu'ils ont un système qui capte, enfin, qui permet de mesurer enfin, ou d'appréhender les champs magnétiques, et c'est une de leurs caractéristiques qui leur permet d'être effectivement migrateurs et de se repérer dans la carte du monde. Les performances de l'œil sont évidemment liées maintenant à des propriétés cognitives. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de voir s'il n'y a pas un système qui permet d'interpréter ce que ça veut dire. Donc, comment ça se passe? Vous avez des bêtes qui ont des petites têtes, hein, des petits cerveaux, c'est les abeilles, la drosophile et d'autres. Et donc, tout ça a été étudié et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et j'ai noté quelques références parce que c'est amusant. Par exemple, vous avez des travaux extrêmement sérieux sur le coucou. Que le coucou dépose ses œufs dans des nids où il ne devrait pas avoir accès. Mais les oiseaux essaient de détecter les œufs de coucou. Et comment ils font pour détecter l'œuf du coucou? Eh bien, il le détecte, ça a été mesuré par l'intégration de toute une série de signaux différents, et donc, de temps en temps, ils arrivent à détecter l'œuf, et puis ils le balancent. Donc, une grande diversité de systèmes et de propriétés. J'en profite pour dire que nous devrions peut-être nous habituer, ce que nous faisons, mais peut-être un peu plus, à penser que, de la même manière que les yeux des différentes espèces animales, les systèmes immunitaires peuvent être extrêmement différents. Et en fait, ils le sont. Et en fait, on l'oublie un peu trop. Par exemple, on admet un peu trop vite que le système immunitaire de la souris est à peu près équivalent à celui de l'homme. Ce n'est pas vrai. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que le système immunitaire de la souris, fort malheureusement, est assez peu prédictif de ce qu'on va trouver chez l'homme. Et je pense que c'est un des gros problèmes de la recherche sur la vaccination, c'est qu'on ne sait finalement pas prédire réellement comment ce qu'on a trouvé chez la souris va ou non marcher chez l'homme. Et il y a des dizaines et des dizaines de vaccins qui marchaient formidablement chez la souris et qui ne marchent absolument pas chez l'homme. Bon. Donc les systèmes immunitaires doivent être quand même assez différents. Okay. Alors, j'en arrive maintenant à ce problème qui est classique, c'est que c'est le problème connu sous le nom de trouver un visage dans une foule, ce qui veut dire aussi trouver, bien sûr, un objet particulier dans un tableau. Et là, il y a une question qui est tout à fait intéressante qui est sur le plan expérimental. L'expérimentateur, dans son labo, il se dit, ben, c'est simple, je décompose le problème et je vais prendre des objets et je vais les multiplier et voir comment l'œil discrimine. Bon. Et donc, il va prendre des objets, disons un objet spécifique, il les dilue dans 2, dans 3, dans 5, dans 10, dans 20, dans 100, et puis il mesure à quel point, à quel moment ça ne marche plus. Quoi. Il y a un moment où ça n'arrive plus à suivre, etc. Et ça permet effectivement de voir comment l'œil et le cerveau qu'il y a derrière, bien sûr, qui est interprétatif, arrivent à reconnaître des objets très spécifiques, soit par le nombre, soit par similarité, comment on discrimine des objets proches, etc. Ça met des questions du genre, est-ce que l'œil voit les objets en série en parallèle ? L'œil, c'est toujours l'œil et le cerveau. Hein. Est-ce que quand vous voyez, vous screenez en série ou en parallèle, comment ça se passe ? Bon. Donc tout ça est étudié. D'ailleurs, on peut suivre les mouvements de l'œil, ça permet de voir ce que le truc. Et puis on peut voir que de temps en temps, il faut faire appel à la mémoire, ce qui est un processus plus lent. Et puis ça permet de déterminer qu'en fait, l'œil, il se fonde dans ses recherches sur une vingtaine de critères, une vingtaine d'attributs. Et vous verrez que ça n'est pas finalement tellement loin de ce que fait l'immunité innée pour reconnaître un agent infectieux. Bon, c'est un peu une plaisanterie, mais... Donc voilà. Là, vous avez là-dedans 4 T qui sont verts et pourpres. Bon, ben, trouvez-les. Bon, c'est pas si évident, hein. Hop. Ils sont là. Bon, alors vous avez peut-être trouvé tout de suite. Pour moi, ça n'a pas été instantané. Et donc, ça montre que même avec un schéma assez simple de ce type-là, ce n'est pas totalement évident. Alors vous avez l'autre approche, qui est celle maintenant d'analyser des scènes naturelles. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on se repère ? Si au niveau de petite complexité auquel on était là, on a du mal à trouver, ça ne peut pas coller dans des choses beaucoup plus complexes. En fait, ça colle. Et donc, dans les scènes naturelles, en fait, on se repère bien. Donc, ça vous montre que l'approche expérimentale, qui paraît la plus logique et la plus scientifique, n'est pas forcément complètement congrue à la réalité. Dans les scènes naturelles, en fait, elles sont complexes, mais elles ne sont pas complètement aléatoires pour nous, parce qu'en réalité, nous avons une mémoire d'en avoir vu un certain nombre, et donc nous opérons avec un guidage sémantique, qui est une connaissance des probabilités que tel élément dans la scène corresponde à quelque chose de connu, et un guidage épisodique qui est la mémoire d'un événement qui est vraiment analogue. Et donc là, nous faisons appel beaucoup plus à l'historicité et à la cognition. Alors, je vous en donne un exemple. Qui va arriver tout de suite, ça permet d'identifier les zones qui sont probablement les plus pertinentes en probabilité, d'extraire rapidement des informations statistiques et donc d'avoir une reconnaissance qui est à la fois analytique et globale. Incidemment, d'ailleurs, j'ai découvert avec intérêt que ça a des applications possibles en radiologie pour les médecins, et non seulement pour les médecins, mais pour les gens qui, dans les aéroports, recherchent des objets anormaux dans les valises. En tout cas, je vous fais la démonstration. Cherchez la miche de pain, et je pense que vous la trouvez tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça, vous reconnaissez immédiatement que c'est une cuisine, et que vous vous dites « Ah ben oui, ça doit être sur une planche, n'est-ce pas ?» et vous y arrivez tout de suite. Donc vous repérez la miche de pain plus rapidement que vous ne repériez l'été tout à l'heure. Alors ça, encore une fois, est-ce que ça nous donne des passerelles intellectuelles avec l'immunologie ? La réponse est bien entendu oui et non. Ça peut donner des idées, cette analogie est juste, je crois, destinée, encore une fois, à nous faire sortir des rails. Parce que, quand même, est-ce que la reconnaissance de l'étranger, de ce qui est étranger par le système immunitaire, est-ce que ça a lieu en série, en parallèle, de façon analytique, de façon globale, exactement comme je vous ai montré que la vision pouvait opérer dans les deux champs ? Combien d'attributs de l'agent étranger guident la recherche ? Voilà encore une bonne question. Comment est-ce qu'on définit quelque chose d'étranger ? Comment est-ce que le système immunitaire les recherche ? La notion de scène immunologique naturelle est, je crois, tout à fait importante et un petit peu négligée. C'est-à-dire que, bien entendu, le mouvement normal de la science, c'est d'isoler des situations qui sont gérables, qui sont expérimentables, sur lesquelles on peut apprendre des choses, sur lesquelles on peut contrôler, etc. Il n'empêche que, par exemple, lorsque vous vaccinez un enfant, ce n'est pas du tout la même chose de le vacciner dans un pays occidental que dans un pays africain, parce que l'environnement n'est pas le même, parce qu'il est multi-infecté, parce que donc la scène immunologique naturelle n'est pas du tout la même. Et quand vous développez dans votre labo votre vaccin sur la souris, vous ignorez tout ça. Et donc il y a tout un domaine qui suit la recherche et qui doit aller vers les éléments de scène naturelle, qui ramène encore une fois à cette question, c'est cette espèce d'abstraction du système immunitaire, de l'organisme et de l'environnement de son, et l'organisme de son environnement, qui est une limitation très forte de l'approche. Enfin donc, le résumé à ce point, et j'en aurai à peu près terminé avec mon introduction, le résumé à ce point, c'est que la spécificité est la combinaison et l'intégration de processus parfois peu spécifiques à différents niveaux d'organisation entre le tout et ses parties. Et le problème, c'est que le tout est très difficile à définir et les parties tout autant. Donc, les objectifs de ce cours. Voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que j'analyserai cette question à différents niveaux d'organisation et je vous ai montré rapidement lesquels. Bien entendu, cette approche ne peut pas être exhaustive et elle est fondée sur des études de cas. J'ai pris des exemples dans les deux catégories de ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative, surtout chez la souris et chez l'homme, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher pratiquement pas au système immunitaire de la drosophile, etc. Et je ferai très fréquemment référence, comme je vous l'ai dit, à la question des systèmes complexes et à l'évolution. Le plan du cours. Alors, non, je m'explique sur ce que j'entends par immunité adaptative et immunité innée. Je crois que c'est important. Pour bien cadrer les choses, l'immunité innée, c'est l'immunité dite immédiate. On verra tout ça beaucoup plus en détail après. Elle concerne à peu près toutes les cellules de l'organisme. Elle a des composants qui sont humoraux, c'est-à-dire qu'on trouve dans la circulation, dans le plasma notamment. Et puis, elle a un certain nombre de constituants cellulaires bien connus, les macrophages, les neutrophiles, etc. De l'autre côté, vous avez l'immunité adaptative, avec les cellules dendritiques qui sont les déclencheurs donc des réponses immunitaires à partir des cellules naïves, des cellules T et B, des réponses humorales avec les anticorps, des réponses cellulaires avec les cellules tueuses, et vous avez des réponses primaires, secondaires, des réponses mémoire, on verra également tout ça. Et vous avez une sorte de no man's land qui est extrêmement important entre les deux, parce qu'en fait, l'immunité innée et l'immunité adaptative s'interpénètrent considérablement. Par le biais notamment de molécules circulantes qui sont les cytokines et les chémokines. Les cytokines sont les sortes d'hormones du système immunitaire, les chémokines sont les attracteurs qui régulent les trafics. Et puis vous avez des acteurs cellulaires qui sont réellement des sortes d'hybrides entre les deux, les cellules NK, NKT, etc. On en parlera, on en parlera rapidement également. Je mentionne que le phénomène d'inflammation, qui est un phénomène absolument capital, est également un phénomène assez hybride entre les deux, dans la mesure où au départ, il émarge strictement à l'immunité innée, mais qu'ensuite, il fait intervenir des cellules de l'immunité adaptative. Pardon, je vous prie de m'excuser. Donc, le plan du cours. Aujourd'hui, nous verrons la réaction antigène-anticorps. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La semaine prochaine, nous allons voir parler un peu d'immunité innée, des récepteurs de l'immunité innée et de la transduction de signaux immunologiques. Nous verrons ensuite la reconnaissance spécifique entre deux cellules. La semaine suivante, nous parlerons d'inflammation et de trafic cellulaire et comment les cellules arrivent à se retrouver dans ce dédale immense de la circulation corporelle. Ensuite, nous parlerons de discrimination entre le soi et le non-soi. Et ensuite, nous discuterons de l'intégration du système immunitaire dans l'organisme, tout ça étant évidemment sous l'angle de la question de comment la spécificité a lieu face au hasard. Et puis, le lundi 13 février, ce sera donc la leçon de clôture, comme il est convenu de l'appeler, J'y donnerai quelques conclusions du cours, et puis j'évoquerai ce que, selon moi, est l'avenir de la recherche en immunologie, l'avenir de ses applications, et quelque chose auquel je tiens beaucoup, ce sont les conditions sociales de l'évolution de la recherche et de ses applications. Vous savez également qu'il y aura un colloque international le 2 et 3 mai, qui a pour titre... Il sort en anglais. Il aura pour titre de la souris à l'homme et de la paillasse au lit du malade. Donc en anglais, From Mind to Man and Bench to Bed. Je vous engage à y assister. Ce sera un colloque extrêmement intéressant. Et il sera d'ailleurs, il aura pour point d'orgue, ce qui me paraît être le point d'orgue le plus important, à savoir une table ronde sur la question de savoir ce que nous devrions enseigner à nos étudiants. Comment allons-nous préparer l'avenir ? Voilà. Donc, si vous voulez bien maintenant, après une minute ou deux, je vais aborder la question de la réponse entre antigène et anticorps.